c'est la fête de deux apôtres dont on ne connaît pas grand-chose, mais on sait suffisamment pour faire une émission, je crois, et c'est ce que je vais tenter de faire sur l'inhabitation de Dieu en nous. C'est donc la fête de Saint-Simon et Saint-Jude. Dans l'Évangile, au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, dans l'Évangile, on parle évidemment de Saint-Simon et de Saint-Jude, peu. Saint-Simon le nomme, il est surnommé le Zélote. C'est pour le distinguer de Simon-Pierre, hein, le chef des apôtres, celui que nous, catholiques, considérons comme le premier pape. C'est un homme, Simon, probablement originaire de Cana. C'est certainement un juif très fervent et zélé. Il faisait peut-être et probablement partie des nationalistes ou des indépendantistes, si vous voulez, qui résistaient farouchement aux occupants romains. Et ces gens-là, ces juifs-là, désiraient rétablir la royauté en Israël avec la force des armes. Et appelé par Jésus pour se mettre à sa suite, eh bien, ce Simon, le Zélote, devient l'un des 12 apôtres qui ont eu le privilège, cet immense et incroyable privilège de pouvoir vivre avec Jésus, le Messie, pendant près de 3 ans. S'il n'est pas présent, lui, au pied de la croix, comme Saint Jean, il est témoin du Christ ressuscité. Il est témoin aussi de son ascension. Il reçoit l'Esprit Saint aussi au jour de la Pentecôte. Et c'est alors que, rempli de courage et d'espérance, Saint Simon part évangéliser l'Égypte et la Perse. Quant à Saint Jude, qui est choisi lui aussi par le Christ pour être son apôtre, il est surnommé Thaddée par les évangélistes. Les évangélistes Marc et Matthieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Thaddée? Ça signifie l'homme de sens. C'est un beau nom, finalement, un homme de sens. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de bon sens. C'est une interprétation qui est faite par Saint Jérôme. Donc, Saint Jude est revêtu de la puissance divine le jour de la Pentecôte, comme Saint Simon. Et on lui attribue l'évangélisation de la Judée, donc en Israël d'aujourd'hui, et de la Samarie, et surtout de la Mésopotamie. Qu'est-ce que c'est que la Mésopotamie? Vous le savez, je pense bien, n'est-ce pas? C'est l'Irak d'aujourd'hui, oui, l'Irak, où il y a encore des chrétiens. On dit qu'il y a peut-être 10% de chrétiens en Irak. Tarek Aziz, le ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein, est un chrétien, un chaldéen. Et il y a une grande partie des chaldéens, c'est comme ça qu'on appelle les chrétiens là-bas, des chaldéens, et bien il y en a une partie qui sont catholiques, qui reconnaissent le pape. C'est une des églises unies à la grande église de Rome, la grande église catholique. Et j'en vois un en particulier assez souvent à la messe chez les franciscains sur le boulevard René Lévesque. Et oui, un chaldéen. Il y a diverses traditions qui nous autorisent à penser que Saint Jude est mort martyrisé en Perse en compagnie de Saint Simon. Enfin, les reliques de Saint Jude sont actuellement à la basilique Saint-Pierre de Rome. Du moins, c'est ce qu'on croit. Et elles furent longtemps l'objet d'une très grande vénération. Et pourquoi ce serait pas vrai? Si ces deux apôtres sont restés fidèles jusqu'au martyr, on peut bien supposer que c'est parce qu'ils n'ont jamais oublié quoi? Le premier appel de leur maître, cet appel que nous oublions si facilement, car Dieu nous appelle constamment, hein. Et ce premier appel, quand nous étions jeunes, qu'en avons-nous fait? Souvent, nous trahissons cet appel, mais eux ne l'ont pas trahi, ils ont été fidèles. Ils ont cru à la promesse du Christ, puis sont restés confiants. Confiants en qui? En l'Esprit Saint qui leur était donné. Sommes-nous assez confiants nous-mêmes en l'Esprit Saint? Pas vraiment, je crois. Si nous l'étions, nous transformerions Ville-Marie, nous transformerions Montréal, nous transformerions nos paroisses, nous transformerions toutes les banlieues de Montréal. Ce serait extraordinaire. Que ce serait beau. Jésus aurait très bien pu se manifester, c'est sûr, en un instant, au monde entier. C'était facile pour lui. Il aurait pu faire ça. Mais c'est pas ce qu'il a voulu. Or, il a préféré quitter cette terre et confier à des hommes pauvres, de conditions très très simples, les apôtres. Il leur a confié le soin de continuer son œuvre jusqu'au bout. Et les apôtres eux-mêmes ont été assez déconcertés par cette attitude qui est plutôt mystérieuse. Et c'est là que survient Saint Jude. C'est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, au verset 22. Il ne peut pas s'empêcher, lui, de dire à Jésus, sachant le pouvoir et la puissance et la divinité de Jésus, il lui dit, « Seigneur, qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous et non pas au monde entier? » C'est que Jésus connaissait mieux que quiconque la faiblesse de ses disciples. Mais il a voulu leur faire totale confiance, et Simon et Jude sont très conscients de leur incapacité. Ils se savaient éclairés par le Saint-Esprit. Puis c'est cette conviction qui a fait d'eux des témoins fidèles, comme tous les autres apôtres, sauf, malheureusement, Judas. Et revêtus, comme on dit, de l'Esprit du Christ, ou inhabités par l'Esprit du Christ, ayant l'Esprit du Christ en eux, qui faisait battre leur cœur et qui faisait gonfler leur poitrine de joie, mais ils ont transmis le message du Sauveur Jésus. En toute vérité, ils n'ont pas trahi le message. Et en agissant en son nom, ils l'ont transmis intégralement. Et l'Esprit Saint habite en chacun de nous par la foi. Et nous sommes tous appelés, nous aussi, à coopérer avec lui. Oui, nous sommes tous appelés à être des saints comme les apôtres. Simon, c'est pas évidemment celui qui sera appelé Pierre, je vous l'ai dit, c'est Simon dit le zélote. Eh bien, et Jude, donc, je vous ai donné son surnom, Thaddée. Eh bien, ces deux apôtres sont sans doute les moins connus, je vous l'ai dit. Et c'est qu'il est important pour l'Église de se reconnaître apostolique, c'est-à-dire fondée sur ces 12 que le Christ a choisis. Nous sommes fondés sur Simon et Jude. Nous sommes fondés sur tous ces autres apôtres. Et le choix de Jésus, qui est aussi un appel, une vocation, représente un événement solennel. Il est précédé d'une nuit de prière, quand il les appelle. Il semble que le Christ a mûri cette élection décisive dans un face-à-face avec son Père. Saint-Pierre, qui est en tête de ce groupe, exerce la primauté. Il est le chef. Celui auquel Jésus va dire, « Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » En ces forces de l'enfer qui ont souvent pénétré l'Église, même à l'intérieur, jusqu'à la papauté, mais qui se sont toujours retirées, car l'Esprit Saint est plus fort que tout. Entre les autres apôtres, il n'y a pas de hiérarchie. Les évêques sont égaux. Tous sont associés au même titre, à la même mission, de sauver le monde, de libérer le monde, au nom de Jésus et par Jésus. Alors, ils accompagnent leur maître dans un peu partout pendant plusieurs années avant d'exercer eux-mêmes ce ministère qu'on appelle le ministère de guérison. Ils guérissent les âmes. C'est extraordinaire la vocation sacerdotale. Mais nous aussi, nous sommes prêtres laïcs. Et nous sommes appelés aussi à une mission, pas comme les prêtres. Nous n'avons pas leur pouvoir, loin de là. Mais nous avons la grâce de l'Esprit Saint et nous avons la capacité de guérir aussi par notre amour. Et Simon et Jude, comme les autres apôtres, ont fondé le ministère de l'Église, appelé à prolonger la mission du Christ, et c'est pourquoi nous sommes fiers de nous appeler avec eux chrétiens. Je vous disais que Saint Jude avait posé une question à Jésus. Comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde entier? Et la question, c'est étrange, le verset suivant, Jean, chapitre 14, verset 23, C'est très très étrange. Jésus répond pas à la question. Mais c'est à nouveau une déclaration extraordinaire sur l'habitation de Dieu dans nos âmes. Dans l'âme en particulier, qui garde la parole de Jésus. Il dit, oh que c'est beau, hein, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Il y a des gens qui n'aiment pas le mot obéissance, ça les fait frémir, mais enfin. Jésus le dit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, et mon Père et moi, nous viendrons à lui, et nous habiterons chez lui. Et il ajoute, celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Bien oui, c'est l'amour qui fait tout. Celui qui m'aime obéira, et mon Père l'aimera, et mon Père et moi, nous viendrons à lui, nous habiterons chez lui. C'est l'amour qui fonde tout ça. Et il ajoute bien, je le répète, celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Il n'a pas cette joie fantastique. Fantastique. Quelle tristesse de penser que des gens ne comprennent pas ça. Quand on a Dieu pour locataire en nous-mêmes, quand Dieu habite la même maison, quand Dieu est aussi proche et aussi accessible, alors tout change. On a envie de chanter. Ah, c'est le bonheur. Je sais bien que tout ce que l'on dit de Dieu est incomplet, ça je le comprends. Et je le dis avec un prêtre qui a écrit ces lignes. Je sais que les mots ne peuvent pas exprimer la réalité. Que Dieu est tout autre que tout ce que l'on soupçonne de lui, il est tout autre. Nos paroles ne sont que des approches plus ou moins justes, jusqu'au jour où on le verra face à face. Mais Dieu est plus qu'un locataire. Il est plus que l'ami. Il est plus qu'un époux ou que l'époux. Il est plus que le Père. Il habite pas seulement notre maison, il nous habite tout entier, comme nous habitons en lui. Il est nous, et nous sommes lui. Mais il est bien plus que nous, et nous sommes bien moins que lui. Et c'est pour ça que cette prière que l'on devrait tous dire souvent, c'est comme une oraison jaculatoire, comme on disait quand j'étais jeune. « Oh mon Dieu, je suis en toi, tu es en moi. » Tu es en moi et nous sommes inséparables. Ô joie, c'est le ciel sur la terre. Je vous ai dit que je vous parlerai du cardinal Turcotte, notre évêque, notre archevêque, le successeur des apôtres parmi nous, le successeur de Simon et de Jude parmi nous. Et j'ai reçu de lui une très belle lettre qui me touche beaucoup. Je tiens à vous en faire part, à vous tous les auditeurs de Rencontres spirituelles. Il me dit, cher monsieur Beaugrand Champagne, ayant eu la joie de vous entendre à plusieurs reprises, je vais vous remercier et vous féliciter pour l'immense travail de documentation que toutes ces émissions demandent et l'intérêt et l'enthousiasme avec lesquels vous rendez la vie de toutes ces personnes font mon admiration. Je vous remercie de ce service d'église, voyez-vous. Nous sommes au service de l'Église, nous tous les laïcs, et notre évêque le reconnaît. Je vous remercie de ce service d'Église. Vous révélez ainsi Dieu, dont on peut soupçonner la grandeur, à travers les pâles reflets des humains que nous sommes. Elle est datée du 15 octobre, le jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila. C'est une lettre qui me touche profondément. Et j'ai reçu, à peu près au même moment, le texte de l'homélie du cardinal Turcotte lors d'une ordination qui s'est tenue à l'église Saint-Joseph de Mont-Royal le 6 septembre 1996. Ça m'a été envoyé par l'abbé Jean-Pierre Couturier qui a été ordonné. Et c'est si beau cette homélie, et elle s'applique tellement aux déclarations de Jésus à Saint-Jude que je tiens à vous en lire une brève partie. Cette homélie commence ainsi. Dieu est amour. Vous avez entendu souvent cette parole. Elle est grande. Elle est belle. Elle est promesse. Vous savez que la foi chrétienne est un grand don. Croire que non seulement Dieu existe, mais qu'il est amour. Voilà une grâce unique qui donne un sens profond à la vie, qui donne un soutien inébranlable. Dieu veut faire connaître son amour à tous les êtres humains. Et Jésus-Christ, le Fils éternel, est venu révéler la bonté du Père dans le souffle de l'Esprit-Saint, et c'est ainsi qu'il a fondé l'Église, son épouse, pour qu'elle soit insérée dans la vie divine et qu'elle constitue la communauté des enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes, nous qui sommes l'Église, son épouse. C'est moi qui viens d'ajouter cette dernière phrase. Je continue la lecture. L'Église prend sa source dans le cœur transpercé du Christ, qui lui donne la vie en donnant sa vie jusqu'à l'extrême de l'amour. Quand un évêque parle comme ça, on ne peut qu'avoir une grande joie au cœur. Je répète cette belle phrase de notre évêque. L'Église prend sa source dans le cœur transpercé du Christ, qui lui donne la vie en donnant sa vie jusqu'à l'extrême de l'amour. Dans cette Église, peuple de Dieu, ajoute le cardinal, il y agit à titre de tête et de pasteur. Par la médiation du sacrement de l'ordre qui est au service de la vie chrétienne des baptisés, qu'allons-nous faire si nous ne manquons de prêtres? Qu'allons-nous faire? Nous avons besoin de prêtres et nous devrions prier tous les jours dans ce sens. Le cardinal Turcotte continue en ce 6 septembre dernier. Parler du mystère de Dieu et du mystère de son amour, c'est contempler l'infini de Dieu dans son existence, sa vérité, sa bonté, et au-delà de l'infini de Dieu, c'est prendre conscience. Oui, prendre conscience que notre effort pour connaître Dieu ne peut être que défaillant, que Dieu échappe à la saisie de nos seules forces. Autrement dit, on ne peut savoir l'amour de Dieu que si Dieu se révèle à nous. Que c'est beau, hein? Je termine avec encore quelques minutes, c'est trop beau. N'ayons pas peur de nous laisser trouver par lui. Ah, c'est notre évêque, Mgr Turcotte, qui nous dit ça. Il faut l'écouter. N'ayons pas peur de nous laisser trouver par lui. Tendons-lui la main avec confiance. Accueillons le don de son amour. Nul ne sait vraiment ce qu'il accueille quand il s'ouvre au mystère de l'amour infini de Dieu qui se révèle au cœur de chacun, continue notre évêque. Cet amour plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, cet amour si grand qu'on ne peut l'approfondir qu'en prenant toujours davantage conscience combien il nous dépasse, tellement il est totalement gratuit. On ne sait jamais assez combien Dieu est amour, ajoute Mgr Turcotte. Dire que Dieu est amour, c'est non seulement dire que Dieu nous aime, c'est dire tout d'abord qu'en lui-même il est éternellement amour, et avant la création il est amour, il nous pose dans l'existence par amour, il vient à notre rencontre par amour. Que c'est beau, il résume tout, hein? Avant la création, il est amour. Il nous pose dans l'existence par amour. J'aime bien ça, il nous pose dans l'existence. C'est comme un geste gracieux de lui. Il nous pose dans l'existence par amour. Il vient à notre rencontre par amour. Et ce beau texte, si beau, se continue ici. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés avant notre venue dans le monde. Avant que l'on pense à lui, avant que l'on se tourne vers lui. Et notre propre amour de Dieu ne peut être qu'une réponse à son amour. Bien oui, notre propre amour de Dieu ne peut être qu'une réponse à son amour. Notre propre amour ne peut subsister que si nous ne cessons pas de croire à son amour. Même au creux des plus grandes souffrances, au creux des crucifiements terribles que nous crée la maladie, les douleurs, les deuils, l'approche de notre mort, la perte de notre travail, le chômage, et tout le mal qui nous entoure, qui nous assaille. Notre propre amour, dit le cardinal, ne peut subsister que si nous ne cessons pas de croire à son amour. Notre propre amour ne peut grandir que si nous grandissons aussi dans la foi en son amour. L'homme du mystère, c'est l'homme de la foi en Jésus-Christ. L'homme d'une immense confiance en l'amour de Dieu. Oh, je vous en dis encore, c'est trop beau. Parler de Dieu comme communion, c'est parler de l'unité qui est en Dieu. Dieu est communion éternelle dans l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et si le Christ nous révèle que Dieu est amour, c'est pour nous révéler que notre vocation est de participer déjà en cette vie et pleinement dans l'éternité à la communion d'amour qui est en Dieu. Quand un évêque parle comme ça, quelle joie! Je lis un autre paragraphe, c'est trop beau. On ne peut accueillir Dieu au plus profond de notre âme, de notre cœur et de notre esprit sans être transformé par lui. À travers sa présence agissante, il nous purifie de nos péchés, nous pacifie dans nos angoisses, nous rend capables d'aimer comme lui. Une dernière phrase du cardinal Turcotte. Lorsque l'Esprit Saint nous unit à Jésus-Christ, et que Jésus-Christ fait de nous des enfants du Père, nous sommes introduits dans la communion divine et rendus capables de vivre la communion entre nous, membres du peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Christ. Je vous rappelle, c'est une homilie du cardinal Jean-Claude Turcotte, notre évêque, successeur des apôtres, successeur de ces deux apôtres dont on célèbre aujourd'hui la fête, Saint-Simon et Saint-Jude. Homilie prononcée le 6 septembre en l'église Saint-Joseph de Mont-Royal, lors de l'ordination sacerdotale de Jean-Pierre Couturier, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce très beau texte. Oui, Dieu nous habite, et Dieu est amour. Dieu est en nous. Il est présent en chaque homme, en chaque femme. Et dans les évangiles, nous trouvons affirmer la présence de Jésus en chaque homme, en chaque femme. Il suffit de penser, comme le dit si bien Clara Lubick dans un très beau livre qui est « Dieu, cœur de l'homme ». Très beau petit livre à lire, je ne peux que vous le recommander. Pensons à la vision cosmique, dit-elle, du jugement dernier, qui se conclut par l'affirmation « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, il est en chacun de nous, même les plus petits. Il nous aime d'un amour débordant. Il est présent dans les croyants. Et c'est Paul, plus que l'expression « le Christ dans le croyant », emploie une autre phrase « être dans le Christ ». Nous sommes en lui, dans le Christ, tous ensemble. Il nous unit, il est en nous, Père, Fils et Esprit Saint, Trinité Sainte qui nous habite, comme nous l'a si bien enseigné Sœur Élisabeth de la Trinité, béatifiée, sur laquelle j'ai déjà fait une émission complète. Comme c'est la fête de Saint Simon et de Saint Jude, deux apôtres, et que Saint Jude s'est fait dire par Jésus selon le texte de Saint Jean au chapitre 14, verset 23, il s'est fait dire ces belles paroles, je les rappelle, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis, et mon Père l'aimera, et mon Père et moi nous viendrons à lui, et nous habiterons chez lui. » Dieu nous habite. Et cette émission porte surtout là-dessus, sur cette belle parole qu'a reçu Saint Jude. J'ai reçu de belles paroles aussi ces jours-ci, non seulement cette lettre du cardinal, mais une lettre de la communauté des récluses missionnaires de La Fontaine. Je vous lis quelques phrases. Ça pourra aider peut-être beaucoup de communautés, de groupes, qui auront peut-être le goût d'imiter ces récluses missionnaires de La Fontaine. Monsieur, plusieurs d'entre nous ont manifesté le désir de vous remercier pour les belles émissions que vous nous servez tous les jours de la semaine à Radio Ville-Marie. Nous apprécions grandement la qualité et la profondeur du contenu des rencontres spirituelles. Vos émissions, écoutez bien ça, c'est extraordinaire, vos émissions sont enregistrées et nous les écoutons à l'heure des repas avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Nous ajoutons ce modeste don pour vous aider à toujours mieux répondre aux besoins des gens d'aujourd'hui en les soutenant dans leur démarche de foi et de recherche de Dieu. Nous vous assurons aussi du soutien de notre prière d'adoration et d'intercession. Et si parfois vous venez dans le Nord, nous serons très heureuses de vous accueillir. Que c'est gentil. Que ces sœurs cloîtrées, les recluses missionnaires de La Fontaine et toutes les sœurs ont signé. Avec leur nom, sœur Marie-Jeanne, sœur Solange, sœur Madeleine, sœur Aline, sœur Madeleine, sœur Claire, sœur Marguerite, sœur Cécile, et encore une autre Madeleine, et sœur Monique, et sœur Fernande, et sœur Françoise, et sœur Lucia, sœur Julienne, sœur Antoinette, sœur Françoise encore, sœur Pauline. Merci mes sœurs, merci beaucoup, je vous aime beaucoup, et j'ai reçu aussi un message des recluses de Montréal sur le boulevard Gouin qui font la même chose et qui écoutent cette émission à midi. J'ai reçu aussi dans le courrier l'un des plus beaux livres jamais publiés au Québec, intitulé « Je serai l'amour ». Trajet avec Thérèse de Lisieux. Nous avons parlé de Thérèse de Lisieux le 1er octobre. L'auteur Fernand Ouellette, un des plus brillants intellectuels et des meilleurs poètes et écrivains du Québec, a publié comme ça plus de 400 pages. Admirable, extraordinaire, exceptionnel. Je suis absolument émerveillé de la qualité de son livre sur Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vous rappelle le titre « Je serai l'amour » chez Fides. Disons tout d'abord que Fernand Ouellette, que je connais depuis son adolescence, est poète, romancier et essayiste. Il a 67 ans. Il a remporté plusieurs prix littéraires, dont le prix David pour l'ensemble de son œuvre. Et écoutez bien ça, il a remporté le prix du gouverneur général à 3 reprises, le prix France-Québec pour une importante biographie du grand compositeur contemporain, Edgar Varèse. Il est cofondateur de la revue Liberté. Il est cofondateur de la Rencontre québécoise internationale des écrivains. Il a été, comme moi, producteur et réalisateur à Radio-Canada. Il a été de 1960 à 91. Pour ainsi dire comme moi. Je l'ai bien connu à Radio-Canada. Il est chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal. C'est-à-dire qu'il a été chargé de cours. À l'Université de Turin aussi, à l'Université Laval, à l'Université d'Ottawa. Et son livre commence ainsi. Je vous fais des lectures sans autorisation, je me permets ça. Voici les premières lignes, dans son avant-propos. Au commencement de Thérèse Martin, il y a la grâce, c'est-à-dire un amour infini de Dieu pour Thérèse. Savons-nous que cet amour infini s'applique à nous aussi? Alors, je recommence. Au commencement de Thérèse Martin, Thérèse Enfant Jésus, il y a la grâce, c'est-à-dire un amour infini de Dieu pour Thérèse. Un amour de la Trinité qui darde son cœur. Voilà ma seule perspective. Thérèse a l'esprit dans la lumière et le cœur dans les flammes. L'esprit dans le Verbe et le cœur dans l'Esprit Saint. Esprit et cœur, foi et charité se renforcent dans l'espérance d'aller vers le Père au sein de la Trinité. Et si nous perdons de vue le pouvoir et le sens de l'action divine en Thérèse, nous ne comprenons plus rien à sa vie. Il ajoute plus loin, qu'est-ce que la petite Thérèse peut nous dire du seul événement historique important pour notre vie et pour l'humanité, l'incarnation de Jésus, sa passion et sa résurrection? Nous, les dormants, ou les endormis si vous préférez, et Fernand Ouellette écrit, nous, les dormants, nous sommes bien incapables d'un éveil, d'une vigile, et surtout nous demeurons tout à fait inconscients du don de Dieu, de la tragédie de Gethsémani et du Golgotha. Comment Thérèse peut-elle nous guider vers le seul mystère, vers le Christ? Que peut-elle nous dire de l'espérance qui devrait nous soulever? de l'achèvement du Christ, de l'avènement du règne de Dieu. Car tout le reste est l'histoire des hommes, l'histoire de notre réponse à l'amour de Dieu et à l'imprégnation de notre nature humaine par le Christ. Et toujours dans son avant-propos, je retire ce petit passage, l'important pour moi, Fernand Ouellet toujours, l'important pour moi aujourd'hui, est que Thérèse s'impose dans ma vie comme une image ardente, une voie vers le Christ et un buisson vif de l'amour. Grâce à sa petite voix, la sainteté devient possible, à partir de ma vie quotidienne. Elle devient mon obligation, puisque la petite voix me permet de prendre l'ascenseur de l'amour. C'est d'une telle beauté ce livre, d'une telle grandeur. Il y a 18 pages de bibliographie, il a tout lu ce qui est important. Non seulement les œuvres, évidemment, de Thérèse, de l'enfant Jésus, mais tout ce qui s'est écrit d'important sur elle. Il a travaillé 6 ans. Et ce grand intellectuel québécois a publié là l'un des ouvrages les plus merveilleux de l'histoire du livre au Québec. Ça me rappelle les œuvres de Marie de l'Incarnation dans un sens. Et c'est très bien écrit. À la fin, il a un épilogue intitulé « Le Saint aujourd'hui ». Cette émission consacrée surtout au Saint me permet, je pense, d'en lire quelques passages. Le Saint aujourd'hui est une balise qu'on s'applique surtout à ne pas suivre, d'ailleurs comme tout ce qui vient de l'Esprit Saint. Son modèle nous épuise, l'ascète nous assèche, nous empêche de respirer. Et alors nous nous engouffrons dans le supermarché du spirituel que constitue le nouvel âge. On dorlote son moi, on recherche ses jouissances, on exalte sa liberté, on cultive son savoir, qui sait fort bien dépister l'ingénuité et l'innocence, pour mieux les fuir avec mépris ou les traquer. Nous sommes entrés dans l'ère de la possession sous toutes ses formes. À vrai dire, si nous tolérons parfois le saint, c'est que nous le considérons comme un paratonnerre ou comme un bouc émissaire. Nous voulons bien nous persuader qu'il y a au moins 10 justes parmi nos contemporains qui nous éviteront la dissolution de l'humanité. Que leur sacrifice apaisera les idées noires de Dieu. Et que nous le toucherons peut-être dans sa miséricorde infinie. Lui, Dieu, que nous nous glisserons dans son amour au dernier instant. Malgré notre lâcheté et la froideur de notre âme, il dit cette phrase de Bernanos à un moment donné, « La sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure qui l'a une fois compris est entrée au cœur de la foi catholique. Notre Église est l'Église des saints, mais qui se met en peine des saints. » Texte de Bernanos qu'il cite. Il ajoute, Fernand Ouellet, quelques lignes magnifiques. Le saint n'advient parmi nous que comme un don de Dieu, comme un faisceau de feu et de lumière. Mais savons-nous même que nous glissons dans la nuit? Le rôle véritable d'un saint aujourd'hui est de nous ramener au réel, à l'intérieur de nous-mêmes, sur le plan de la grâce, sur le plan de l'être, car Thérèse est dans l'espace du seul réel absolu qu'est Dieu. Et ce seul réel absolu nous habite, hein, j'ajoute ça moi, oui, ce seul réel absolu nous habite. Fernand Ouellet continue en disant, le saint en quelque sorte doit nous aveugler pour affiner notre vision, nous atteindre de sa flamme pour nous attiser, et qu'enfin nous sentions plus que nous comprenions pourquoi Dieu nous a choisis dès l'instant qu'il nous a créés. Si nous n'avions pas l'obligation de devenir des saints, Dieu ne nous aurait pas conçus. Je répète cette phrase d'un des plus grands intellectuels de notre pays. Si nous n'avions pas l'obligation de devenir des saints, Dieu ne nous aurait pas conçus. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il cite cette parole de Jésus. Il continue, Fernand Wallet. Dieu ne peut avoir pour nous qu'un désir infini d'amour et de glorification. C'est tellement beau son livre, tellement beau. Ce que Thérèse nous fait comprendre, c'est ainsi qu'il termine son livre. Ce que Thérèse nous fait comprendre, comme en mettant le doigt sur notre esprit, c'est que nous devons d'abord apprendre à recevoir l'amour, afin d'être disposés, désireux, impatients, dans l'achèvement de notre vie, à nous donner enfin à lui. Je serai l'amour, c'est la parole sublime de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, c'est le titre du livre. Je serai l'amour. Sur le plan surnaturel, continue Fernand Wallet, sur le plan surnaturel, nous refusons constamment le don de Dieu pour prendre possession du monde. Nous refusons le royaume que Dieu nous offre pour nous contenter du royaume visible. Là, sous nos yeux, sous nos pieds et dans notre cerveau, nous nous dressons contre le Dieu transcendant pour mieux nous replier sur nous-mêmes, créant, croyons-nous, notre propre transcendance. Et l'histoire, notre histoire tragique se poursuit. Notre péché est celui-là, dit bien Divo Barsotti. Divo Barsotti, un grand auteur mystique italien, la cause est à Rome pour sa canonisation. Notre péché est celui-là, dit bien Divo Barsotti, nous n'avons pas cru à l'amour. C'est cela que le Seigneur nous demande, rien d'autre. Non pas que nous l'aimions d'abord, mais que nous le laissions nous aimer. Serait-il possible que je refuse l'amour de Dieu, moi qui m'en dis l'amour de toutes les créatures, termine Divo Barsotti. Mais Fernand Wallet ajoute, mais je ne sais vraiment aimer que si j'aime l'amour à travers ceux que j'aime. Je ne suis vraiment aimé que si on aime l'amour à travers moi. Il nous faut apprendre à recevoir le don de Dieu. C'est ce que le Saint nous montre. Il nous désembourbe, nous dégrossit, nous dématérialise. Il nous aide non seulement à vivre avec notre âme, mais aussi avec notre corps. Il projette une façon de s'incarner, difficile, j'en conviens. Il nous oriente avant tout vers la Trinité. Vers la Trinité. Divo Barsetti, la révélation de l'amour. J'espère que vous avez ça dans votre bibliothèque. C'est un vieux livre, ça a dû être republié. Je lis vers la fin de son livre. Dès le prologue de son évangile, Jean ne parle-t-il pas du Verbe qui s'est fait chair et qui a fixé sa tente parmi nous? Plutôt que de transporter l'homme hors de lui-même à la rencontre de Dieu, plutôt que de soulever l'homme jusqu'au ciel, l'amour apporte Dieu à l'homme et fait demeurer la Sainte Trinité dans le cœur de l'homme. Nous avons de beaux auteurs, de grands auteurs dans ce siècle, tant au Québec avec Fernand Wallet, tant en Italie avec Divo Barsotti, tant d'autres et tant d'autres et tant d'autres. L'Église est riche, riche de l'Esprit Saint qui inspire tant d'auteurs. Il y a de si beaux livres. Saint Jean rapporte ces paroles. « Quiconque même garde la parole », c'est toujours ce texte sur lequel est basée cette émission, « quiconque même garde la parole et mon Père l'aime, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Et Divo Barsotti ajoute « La marche de l'âme n'est plus une sortie du monde et de soi-même, un passage à travers toute la série des cieux, là, jusqu'au septième ciel, très très haut, loin, 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 bien, plus loin que les galaxies, non, non. Il dit, c'est un approfondissement de l'homme, une pénétration toujours plus poussée dans l'intimité de son cœur. La loi de la vie chrétienne n'est pas d'aller sans arrêt, mais de demeurer. Et il cite alors ce beau texte de Saint Jean au chapitre 15, « Demeurez en moi ». C'est Jésus qui parle. « Demeurez en moi comme moi en vous ». De même que le sarment ne peut pas par lui-même porter du fruit sans demeurer sur la vigne. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi, a dit Jésus. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. En qui je demeure. Celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors comme le sarment. Et il se dessèche. puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Que pouvons-nous demander de plus que l'Esprit Saint? Et Jésus continue, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Quel amour! Demeurez en mon amour. C'est toujours demeurer, demeurer en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme j'ai moi-même gardé les commandements de mon Père et que je demeure en son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La conception de Saint-Jean répond à une espèce de conception physique de l'amour. Au lieu d'arracher l'homme à lui-même pour le jeter au-delà de toute limite créée dans le sein de Dieu, au lieu d'être un aiguillon qui fait aller de l'avant, l'amour est une étreinte qui cerne tout homme, toute femme, qui le renferme, il l'absorbe en soi. Dieu vit dans l'homme et l'homme en Dieu, et de même que le Père vit tout entier dans le Fils et le Fils dans le Père, dit Divo Barsotti. Et dans la tradition spirituelle du christianisme, la doctrine de l'amour va reprendre, il va poursuivre ces voies-là. Il s'agit d'une relation tout à fait étrange et belle de chaque personne humaine avec la personne du Verbe, de Jésus. Et elle s'exprime précisément dans le thème de l'union nuptiale. L'amour n'est pas ici une force qui assimile et unit tout, c'est un rapport personnel qui est marqué d'un caractère unique, c'est un drame et une prière, ou c'est un drame et une prière, hein. Et c'est à la conception, on peut dire extatique, là, de l'amour que répond la mystique d'Origène, dont je vais vous parler dans quelques jours, au début de novembre, et de Saint Grégoire de Nice, et de Saint Bernard, et de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, puis de Saint Jean de la Croix. L'amour est par-dessus tout une relation personnelle et vivante entre Dieu et l'homme. Et l'incarnation du Verbe a été la révélation de l'amour de Dieu au monde, comme le disait tout à l'heure le cardinal Turcotte, notre évêque, successeur des apôtres. Oui, l'incarnation du Verbe a été la révélation de l'amour de Dieu au monde, mais aussi la condition étonnante d'un amour qui unit désormais chaque homme à Dieu. Dieu et l'homme ne sont plus infiniment éloignés l'un de l'autre, non, c'est fini ça. Dieu n'est plus inaccessible à l'homme, parce que la relation que chacun établit avec le Christ aboutit vraiment à Dieu lui-même, et la Sainte Écriture bien, nous révèle Dieu, et Dieu est amour, et toute la Divine Écriture n'est que la révélation de l'amour infini, c'est ça la Bible. Mais l'acte de la révélation ne comporte-t-il pas déjà le mystère d'une communication divine? La participation de l'homme à la vie intime de Dieu, c'est ça. Que la Bible est mal comprise quand on ne sait pas que la Bible, comme dit Divo Barsotti, nous révèle Dieu et que Dieu est l'amour. Et toute la divine écriture, toute la Bible, n'est que la révélation de l'amour infini. Et toute la tâche de l'Église, c'est de révéler ça. Nous sommes des révélateurs de l'amour de Dieu. Et Saint Paul nous enseigne qu'il y a un rapport intime entre le thème nuptial puis le mystère chrétien. C'est toute une histoire d'épousailles, d'amour. Le thème nuptial ne suggère pas seulement que l'amour est au centre du christianisme, il révèle davantage ce qu'est le christianisme lui-même. C'est un mystère d'un Dieu qui sort de sa solitude pour se rencontrer avec l'homme, qui se révèle à l'homme, et lui parle, lui donne son amour, et se donne lui-même. Comment ne pas recevoir Dieu? Comment ne pas se nourrir de son Eucharistie tous les jours? Comment ne pas sauter dans un taxi, dans le métro, dans un autobus, ne pas courir avec un parapluie, un imperméable manteau d'hiver tout le temps de l'Église, tous les jours, pour recevoir dans le creux de notre main le corps vivant de Jésus, ressuscité, Dieu lui-même, Trine qui nous habite et nous nourrit. Jésus nous nourrit. La solitude de l'homme est envahie par Dieu. L'homme le voit, l'écoute, s'ouvre pour accueillir dans un étonnement tout pur le message de cet amour, un amour illimité. C'est le don d'un amour ineffable. La révélation de l'amour, c'est l'acte par lequel, gratuitement, en se donnant, Dieu se fait connaître à chacun d'entre nous. L'acte par lequel il nous entraîne, tous, jusque dans sa propre vie intime. Dieu ne révèle son amour que dans la mesure où il se donne. Et nous ne pouvons connaître Dieu que dans la mesure où nous l'accueillons. Mais le mystère chrétien suppose que Dieu est infiniment éloigné de l'homme et qu'entre eux deux s'ouvre un abîme infranchissable, mais quand ce mystère s'accomplit, et les voici tous deux mystérieusement unis. Eh oui, oh, la révélation de l'amour divin n'est pas dans le christianisme, à la différence des autres religions, l'occasion où toute distinction entre Dieu et l'homme s'évanouirait, et qui ne laisserait plus à Dieu et à l'homme leur visage particulier, non. Le mystère chrétien a son achèvement. Dans cette unité de l'homme avec Dieu qui se réalise dans la mutuelle et totale relation aimante de l'un à l'autre. C'est toujours une relation, mais nous ne disparaissons pas. Nous ne sommes pas fondus en Dieu. Nous sommes toujours nous-mêmes, vivifiés, animés par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même. Ô Dieu, tu nous habites. Nous sommes dans le bonheur, à la seule pensée que tu nous habites. Et toujours nous voulons te rendre grâce, toujours et en tout lieu, comme nous l'enseignent les préfaces d'Adon Mess. Oui, toujours et en tout lieu, nous voulons te rendre grâce, te dire que nous t'aimons, ô Dieu Trine, Père, Fils et Esprit. Nous sommes comblés, non seulement par la révélation de ton amour, mais par ton amour même, qui nous nourrit, qui nous rend joyeux, qui nous fait vivre.